Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous, je vous propose que nous ouvrions notre Bible. Et nous allons faire une petite recherche sur un thème particulier. J'ai donc titré notre méditation d'aujourd'hui « Empêchement et contrariété ». Empêchement et contrariété. Notre première lecture qui situe notre réflexion, c'est dans Luc, chapitre 24 et verset 15. Donc je rappelle Luc, chapitre 24, verset 15. Alors il s'agit d'une rencontre mystérieuse de deux disciples avec un personnage que nous connaissons bien puisqu'il remplit toute l'histoire de la Bible et particulièrement les évangiles. C'est Jésus, tout simplement, qui ne se laisse pas reconnaître par ses suivants, par ses disciples. Alors voilà, donc, dans notre paragraphe, il s'agit de Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Au verset 13, il est dit ceci, et voici, « Ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, environ une quinzaine de kilomètres, 12-15 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha d'eux et fit route avec eux. Mais le verset important c'est celui-ci. Mais leurs yeux était empêché de le reconnaître. Et nous allons développer notre sujet sur ce phénomène qui appartient tout simplement là à notre vie. Ce sont les empêchements qui peuvent générer ou qui génèrent très souvent des contrariétés. Si nous voulons donner un petit peu plus de signification, définir ce qu'est un empêchement ou des empêchements, c'est gêner une action, on peut le comprendre de cette manière, ou gêner un projet, l'entraver, ce qui produit, ce qui génère un embarras ou s'opposer à une réalisation. Et les conséquences, naturellement, c'est la contrariété, c'est-à-dire le dépit. Et parfois, cela peut entraîner, naturellement, des annulations et toutes sortes de choses qui sont désagréables. Et nous avons toujours dans ce même chapitre, ce que les disciples qui font route avec Jésus, sans le reconnaître, sans pouvoir le reconnaître, vont exprimer cette parole et ils le diront à leur accompagnateur inconnu, ils diront ceci, en effet, nous espérerions que ce serait lui, en entendant bien sûr que ses disciples avaient certainement cheminé avec Jésus, ils avaient partagé sa vie, ils avaient vu des choses extraordinaires, ils avaient probablement été témoins de grandes choses, et quand Jésus leur posera la question sans se faire reconnaître, ils répondront tout simplement, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voilà, ça c'est le texte que vous pouvez retrouver en lisant le chapitre. J'aimerais poser maintenant quelques éléments d'approche qui se définissent d'abord par la perspicacité de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Voilà, les empêchements tiennent aussi à une valeur morale, une valeur ou valeur morale, c'est-à-dire le discernement, la perspicacité, l'acuité dans les choses, sur les choses, de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, s'il y en a un qui connaît parfaitement, le rôle des empêchements ou des autorisations qui nous sont données, c'est véritablement le Seigneur, bon ou mauvais. Discernement des réalités et des apparences. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est un apprentissage. Et nous avons à faire véritablement le distinguo entre ce qui est réel, vraiment réel, les réalités, et puis les apparences. Et vous savez qu'on peut se tromper en donnant un jugement, une appréciation sur un fait, sur des choses, sur des gens. Et tout cela ne sont que des apparences. Mais eh bien, c'est là où joue peut-être, où intervient un empêchement pour nous empêcher de ceci, pour nous empêcher d'aller vers le mauvais, et puis peut-être de nous conduire vers le bon. Un empêchement peut révéler la contradiction et naturellement eh bien, sa suite, c'est-à-dire la désillusion. Et nous savons que dans un texte que je vais citer d'ici quelques instants, la responsabilité non avouée, c'est-à-dire un prétexte pour ne pas faire quand l'empêchement se présente. Et nous nous souvenons de cette histoire, c'est une parabole, c'est la parabole du bon samaritain, et il y est question d'un prêtre, d'un sacrificateur ou d'un docteur de la loi, un lévite, qui vont passer outre. Et peut-être l'un et l'autre, le prêtre pouvait se dire, eh bien moi je descends, il descendait de Jérusalem à Jéricho, et ils pouvaient se dire dans leur fort intérieur alors qu'ils étaient à marcher sur ce chemin, et peut-être que lorsqu'ils sont arrivés à la hauteur de cet homme blessé sur le chemin, ensanglanté, étant laissé à demi-mort, peut-être le prêtre lui-même s'est dit, bien voilà, moi j'ai une chose, une urgence, je dois descendre à Jéricho parce que je dois dans la synagogue, faire un culte, ça c'est possible. Et puis peut-être le docteur de la loi pouvait avoir le même sentiment, et il pouvait se dire, eh bien moi j'ai véritablement des choses très importantes à dire, des enseignements à donner, alors qu'est-ce qu'on fait hein? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que l'on porte secours à cet homme qui est finalement entre la vie et la mort, hein, dont peut-être le pronostic, comme on dit aujourd'hui, vital est engagé? Ou alors on file notre chemin, on passe outre. Mais je voudrais rappeler quelque chose, qu'il y a deux possibilités dans un empêchement qui peut nous contrarier d'ailleurs, hein, il devait être contrarié ces deux-là, et de dire, eh bien nous on n'a pas le temps, c'est pas possible, il y aura bien quelqu'un qui passera derrière nous, qui rencontrera cet homme et qui lui apportera les soins. Ou alors, à ce moment-là, nous nous arrêtons et nous allons perdre du temps, etc., etc. Mais c'est peut-être justement, et je l'ai dit et je le répète, un prétexte pour ne rien faire, tout simplement. Et se donner, eh bien là, une bonne raison, eh bien, de laisser les choses en l'état. Donc, un empêchement peut révéler naturellement, eh bien, la responsabilité non assumée, et on a cité le cas de ces deux religieux, le non assumé pour faire le bien, tout simplement, et d'apporter un bien secourable en vu comme un empêchement de ne pas pouvoir aller au bout de leur projet et de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Empêchement ou pas, en tous les cas, il y a un temps pour toute chose. Et si quelquefois Dieu met sur notre route, dans notre vie, des empêchements, c'est qu'il y a des raisons. Et nous allons le voir dans la suite de notre méditation. Alors il y a un temps pour toute chose, et le temps venu, et ça nous ne le savons pas, c'est toujours Dieu, et puis il y a une question naturellement de conscience, de cœur. Hein? Lorsque nous voyons des gens qui sont dans la misère, dans le malheur et dans la détresse, hein? alors le temps venu est toujours celui de Dieu et non le nôtre. Et si parfois il arrive et surgit des empêchements dans notre vie, c'est qu'il y a des raisons. D'une manière ou d'une autre, nous ignorons naturellement ce qui se passe derrière le voile, dans l'invisible, mais Dieu le sait. Et quelquefois, c'est pour nous interpeller nous-mêmes. Donc, Dieu a un temps pour chacun d'entre nous et il permet finalement des arrêts. Il permet des redéparts, il permet que nous fassions le bien, que nous puissions aussi échapper au mal qui nous tente. Naturellement, tout cela, ça fait partie du programme. Alors naturellement, il faut l'intelligence, de la flexibilité et de l'acceptation des choses. Hein, si on reste buté, si on reste là comme des opiniâtres, hein, en disant « moi j'ai des choses urgentes, je m'en occupe pas », surtout quand il s'agit, eh bien quelque part, de secourir et d'apporter en effet ce qui est nécessaire à quelqu'un qui est dans la misère ou le malheur. Donc il faut de la flexibilité et l'acceptation, sans déception ni frustration. Tant pis, voilà, je ne peux pas arriver à mon but, j'avais à réaliser ceci, j'ai été contrarié par cela, il y a eu ce contretemps, il y a eu ces événements, etc. Comment réagissons-nous devant les empêchements qui peuvent générer là des déceptions et toutes sortes de frustrations. Déceptions et frustrations quand le programme souhaité ou que le programme rêvé se dérobe. Comment réagissons-nous ? Ça, c'est important pour un chrétien de le savoir. Parce que nous avons maintes et maintes occasions d'être confrontés avec ce genre de choses. Tout le monde est confronté, hein, quoi qu'il en soit. C'est ainsi. Et peut-être que ça doit être remis à demain, mais quelquefois nous sommes tellement imprégnés parce que nous voulons réaliser que, et surtout que nous sommes dans une période, dans un monde où le temps c'est de l'argent, alors mais parfois Dieu se sert des empêchements pour arrêter les enfants de Dieu et leur parler, quoi qu'il en soit. Un temps de pause peut-être remis à demain, plus tard, mais nous savons que plus tard, quelquefois, c'est aussi jamais. Voici quelques instances pertinentes des exemples pertinents que nous allons déployer, dévoiler maintenant, et qui nous parlent et qui nous enseignent précisément sur les empêchements et les contrariétés précisément dues à cet empêchement. Nous avons lu dans Luc chapitre 24 « Empêcher de le reconnaître ». Alors, je l'ai dit et je le répète, ses disciples étaient familiers de Jésus. Il l'avait entendu, il le tenait certainement dans l'honneur, il était leur maître, je crois que c'est quelque chose. Mais c'est quand même curieux que des gens qui ont vécu peut-être pendant des mois et peut-être 3 ans, pour certains, parmi les deux, en effet, il y a naturellement derrière tout ça, un problème qui peut, une question qui peut se poser, une interrogation, c'est-à-dire de dire, mais comment ces gens, ces deux disciples, qui vont sur le chemin d'Emmaüs, qui rencontrent Jésus sans le reconnaître, et il est bien dit, le mot « empêcher » de le reconnaître, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, premièrement, Jésus, il avait vu mort sur la croix. Ça, c'était le fait. Et puis, il avait probablement, en effet, toute la nouvelle que le soi-disant prédicateur de Nazareth était mort. Et puis, naturellement, il est arrivé qu'il y a eu un autre bruit, un contre-bruit, nous pourrions dire qu'il était ressuscité. Alors, dans cette période tellement tragique, dans cette période tellement incroyable, peut-être qu'à ce moment-là, il se disait, où il ne pouvait pas arriver à avoir les yeux véritablement ouverts pour identifier Jésus. Mais empêcher de le reconnaître, mais nous allons voir qu'il y a derrière tout cela, c'était pour une révélation plus grande encore. Voilà, c'est ça. Dieu nous arrête quelquefois dans nos précipitations, dans notre folie de faire, d'être et de mener à bien, ce que nous avons en tête. Ça fait partie naturellement des activités de l'homme, mais nous voyons que quelquefois il y a des empêchements qui sont permis. Il y a des empêchements qui sont permis pour nous parler, pour nous enseigner et surtout nous amener à réfléchir. Et ça, c'est important de nous poser la question. Que ces empêchements, ils sont là pour nous préserver également. Vous savez que là, dans cette période tellement difficile, tragique, qui a bouleversé le monde entier quand il s'agissait de l'effondrement des tours de Manhattan, il y a certainement, et ça nous est rapporté d'ailleurs, il y a eu des témoignages dans ce sens, que des gens sont arrivés trop tard au bureau, ils sont arrivés en retard, et peut-être qu'ils ont été particulièrement ennuyés d'arriver peut-être hors des temps de travail. Mais quand ils ont compris, quand ils ont vu ce qui s'est passé peut-être 1 heure ou 2 heures après, là ils ont compris pourquoi ils ont été empêchés. Parce qu'ils ont été empêchés et préservés. Parce qu'ils auraient certainement peut-être péri à travers cet effondrement. C'est comme d'autres témoignages qui ont été donnés, raté son avion. Mais quand on apprend que quelques temps après, l'avion s'est crashé. Alors, à ce moment-là, nous voyons que il y a certainement une signification. C'est pour ça que il nous faut de la flexibilité et de l'acceptation des choses. De dire, si c'est arrivé, c'est pas si grave que ça, mais c'est peut-être justement, pour me garder en vie, tout simplement. Alors, cette révélation plus grande, celle de l'apparition du ressuscité, qui va se faire quelques minutes après, quelques temps après, dans la même journée naturellement, quand ils vont se retrouver à table, Et là, il va y avoir véritablement plus grand qu'une révélation verbale, qu'une révélation tout à fait naturelle, mais il va y avoir les yeux qui vont s'ouvrir. Et j'aimerais que nous puissions tout simplement lire, hein, toujours dans le même chapitre, hein, chapitre 24 et verset 30, il est dit pendant qu'il était à table avec eux, Jésus à table avec ses deux disciples, eh bien, Jésus a pris du pain, il a rendu grâce, et il l'a rompu, et il leur donna. Voilà, il leur donna, quel don, hein. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, avons-nous lu. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce que dans ce geste, hein, il a fallu que finalement ils se retrouvent ensemble, face à face, sur la même table, hein, et il l'avait toujours pas reconnu, mais à ce moment-là, dans le geste, et ça c'est important parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Jésus aurait pu leur dire tout de suite, quand ils ont commencé à marcher ensemble, ben, vous me reconnaissez pas, c'est moi, je suis Jésus, je suis votre sauveur. Non, ça s'est pas passé comme ça. C'est à travers trois gestes qui nous sont montrés. Il était à table avec eux, il a pris du pain. Vous savez, la table, c'est l'image de la communion, hein, de la relation, où là, on partage quelque chose ensemble. Donc, il était à table, il a pris du pain. Quel souvenir s'ils ont été peut-être, en effet, confrontés avec ce que Jésus faisait couramment. Je ne parle pas de la Sainte-Seine, parce qu'ils ne devaient pas y être. Hein, mais je pense que quand Jésus était avec ses disciples, hein, plus que le nombre de 12, hein, eh bien, il devait rendre grâce. Et là, ils ont compris, finalement, quelque chose, il y avait un sens. Alors, il a rendu grâce et il a rompu le pain pour le leur donner. Et ça, ça a certainement été, eh bien, ce qui a permis à leurs yeux de s'ouvrir. Donc, empêcher de le reconnaître, mais pour une raison tout à fait particulière. Ensuite, il y a un autre passage qui est intéressant. C'est l'eunuque dans le désert qui demande cette parole. Alors, nous allons voir dans le texte, au chapitre donc 8, me semble-t-il. Et nous voyons que c'est un eunuque, ministre de la reine d'Éthiopie, qui va à Jérusalem pour s'informer de la foi des Juifs. Alors il va au temple, il découvre où il, en effet, prend connaissance de la loi de Moïse. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce périple qu'il va faire, il est venu pour une révélation, celle de Moïse, en effet, le temple de Jérusalem. Mais quand il va repartir, il veut partir avec le véritable trésor et au complet. C'est-à-dire que quand il va repartir et quand il va être, eh bien, interpellé par Philippe l'évangéliste, qui va lui raconter toute l'histoire de Jésus, alors ça c'est plus que Moïse, c'est plus que le temple de Jérusalem, c'est véritablement la révélation pleine et entière pour le salut. Et à ce moment-là, Philippe va naturellement interpeller cet eunuque et il dira « Comprends-tu ce que tu lis ?» Alors il va lui répondre avec beaucoup d'humilité « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Ainsi Philippe est monté dans son char, il est venu et il lui a raconté toute l'histoire de Jésus. Alors à un moment donné, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? Alors vous le relirez vous-même. Hein. Et Philippe donc lui a donné plus de détails comme il le souhaitait. Et comme il continuait, ça c'est le verset important, comme il continuait leur chemin, c'est toujours sur un chemin à Emmaüs et puis celui-ci du désert. Ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque a dit ceci, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Voilà. Qui est très intéressant parce qu'il y a encore une petite nuance à saisir sur le thème de l'empêchement. Nous voyons qu'il n'y avait pas une opposition extérieure, mais il se sentait prêt, il avait entendu l'évangile, il avait en effet accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel et probablement que Philippe lui avait dit, mais maintenant, eh bien, il y a cette foi en Jésus et il y a un acte d'obéissance qu'on appelle le baptême. Et il dira, mais voilà, tout simplement, mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il était vraiment prêt. Et là, on peut parler d'une conversion express, mais probablement, eh bien, des plus sincères. Et nous voyons que c'est encore là, comme à la table avec Jésus et ses disciples d'Emmaüs, c'est encore dans une configuration qui ressemble, eh bien, nous voyons que c'est au moment opportun, lorsqu'il a entendu ce tunique, la parole, lorsqu'il y avait de l'eau, parce que de l'eau dans le désert, c'est quand même assez rare, et ça ne devait pas être certainement un petit filet d'eau, hein, c'était probablement quelque chose qui était suffisamment abondant pour qu'un homme soit immergé, c'est-à-dire trempé complètement. Et puis, l'action de grâce, trois choses, hein, la parole entendue, l'action de l'eau qui est présente, et également l'action de croire. Et c'était véritablement le moment favorable qui, quelquefois, ne revient jamais. Et les choses ont été faites, et donc, il n'y avait rien qui empêchait, puisqu'il avait entendu la parole, il croyait à la parole, il s'était repenti, puisqu'il a confessé Jésus comme le Fils de Dieu, hein, comme le Sauveur. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, dira-t-il un petit peu plus loin dans le texte, et qui nous montre que dans tout cela, l'empêchement a été véritablement balayé, nous pouvons dire, pour qu'il atteigne. Ça, c'est un cas positif finalement de ce que nous parlons sur les empêchements. Il n'y avait pas de contrariété, au contraire, il y avait de la joie, puisqu'il nous indique que ça s'est terminé, le cœur léger et dans la joie. Il y a également, là aussi, un autre texte qui fait partie de la stratégie supérieure de la volonté, parce que la volonté de Dieu est souveraine. On en a parlé tout à l'heure, dans le livre des Actes, au chapitre 16, il nous est dit à un moment donné qu'il y avait Paul et Silas, me semble-t-il, appelé Sylvain dans notre, naturellement, langage pour nous. Et dans ce chapitre 16, ils partent en mission. Voilà, ils ont été mandatés par l'église de Jérusalem, ou l'église d'Antioche plutôt, et ils vont partir en mission pour annoncer tout simplement l'évangile. Et nous voyons que par deux fois, dans ce passage du livre des Actes, je vous ai donc donné la référence, et il est tout simplement dit, je vais relire le texte, ça sera plus facile, il nous est simplement là, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, alors ils ont traversé différentes provinces, et un peu plus loin, il nous est dit, alors qu'ils se préparaient à rentrer dans une autre partie de l'Asie mineure, il nous est dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc il y a eu là, en effet, un empêchement. Donc, quand on voit ses disciples, quand on voit l'apôtre Paul, qui était un évangéliste, son ami également, et qui partait en mission, et au cœur même de la volonté de Dieu, au cœur même de leur mandat pour le salut des âmes en prêchant l'évangile, nous voyons qu'il y a là, nous pourrions dire, une volonté souveraine de Dieu qui se manifeste, et nous avons vu dans ce texte, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer. Ça c'est curieux, parce que toute la Bible et tout l'Évangile nous dit qu'il n'y a aucun empêchement, au contraire, il y a une exhortation, il y a un encouragement très vif d'annoncer l'Évangile. Mais là, ils ont été empêchés. Alors, il ne nous a pas dit quel empêchement, mais toujours est-il qu'en effet, ça a été fait une fois, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui les a arrêtés. Et puis un peu plus loin, quelques versets, nous l'avons lu tout à l'heure, il nous est dit « l'Esprit de Jésus ne leur permit pas ». Alors, c'est quand même des contradictions, et c'est quand même quelque chose de déroutant. Ils sont dans la volonté pleine et entière de Dieu, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et pour nous montrer encore une fois de plus, que dans tout ce brouillard, dans tout ce méli-mélo, nous pourrions dire, cette incompréhension, pourquoi il y a des empêchements dans la vie, pourquoi il y a tantôt c'est favorable, tantôt c'est défavorable, c'est que Dieu sait, c'est que Dieu connaît. Et il voit plus loin, il connaît où, le comment et le pourquoi. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller aussi. Et ça fait partie de ce que nous avons souligné tout à l'heure, la flexibilité et l'acceptation sans déception ni frustration. Parce que on peut être passablement déçu, et puis ça peut être une déception qui va durer quelques jours, quelques heures. Mais quelquefois, ça peut durer toute la vie. Alors c'est vrai que nous pouvons donner déjà une première conclusion, c'est que tout empêchement dérange, nous dérange, peut nous agacer, perturbe l'ordre de nos projets, nous contredit naturellement et par voie de conséquence nous contrarie. Et les empêchements font partie des incidents naturels de la vie. Nous sommes chrétiens, nous ne le sommes pas, peu importe, Mais ça, ça fait partie finalement eh bien, de la vie des hommes. Je prends encore un autre exemple, c'est Paul, quand il est sur le navire pour aller à Rome, c'est dans le livre des Actes au chapitre 27. Alors là, c'est quelque chose, véritablement, moi, ça, il fait ressembler un peu à Job, c'est-à-dire que toutes les enquiquinements, toutes les perturbations, tout ce qu'il peut y avoir d'empêchement, eh bien, tombe sur la vie de ces deux hommes, Job et Paul. Et nous allons parler de Paul. C'est un déluge d'empêchement, à droite, à gauche, devant, derrière, etc., un déluge d'empêchement. Il nous est parlé dans ce chapitre 27 de vent contraire, un déchaînement finalement des éléments de la nature. À un moment donné, eh bien, ils vont rencontrer une telle lenteur de navigation que finalement, eh bien, ils sont très en retard sur la, tout simplement sur la saison de naviguer, parce que à cette époque, dans l'Antiquité, on naviguait pas en hiver. Hein. Mais là, l'hiver s'approchait. Donc, ils vont vivre une folie de précipitation, ensuite de la lenteur. Ils vont rencontrer une mer furieuse. Ils vont rencontrer la houle effrayante. Ils vont avoir le sentiment qu'ils sont perdus, donc un péril terrible. Ils vont vouloir se mettre à l'abri dans un port qui n'est pas propice, qui ne peut pas abriter le bateau pendant la période hivernale. Ils vont être à la dérive, au gré des flots, des jours et des jours. Et à un moment donné, la mer est tellement mauvaise que, eh bien, ni le jour, ni la nuit, il l'écrira d'ailleurs, c'est écrit dans le livre donc des Actes, il est dit, à un moment donné, qu'ils n'ont pas vu la lumière, ils n'ont pas vu les étoiles, le soleil n'a pas paru pendant, finalement, eh bien, plusieurs jours. Et ils étaient au désespoir de devoir mourir et à perdant l'espérance de survivre. Et au bout, il y a quelque chose de formidable, comme nous l'avons vu précédemment, il va y avoir une aventure inattendue, miraculeuse. Alors, je vous laisse découvrir dans ce livre des Actes au chapitre 27. C'est assez extraordinaire. C'est pour nous montrer encore une fois de plus que Dieu est le Dieu du miracle, que Dieu est bien au-dessus de tout. Je voudrais aborder encore un autre sujet en ce qui concerne les empêchements que je qualifierais, je leur donnerai un adjectif maléfique. Les empêchements maléfiques détournés. C'est-à-dire que là, eh bien, il y a des choses qui nous plonge dans la confusion, dans l'angoisse, dans la détresse, où nous n'y comprenons rien, parce que il y a deux événements, il y a celui, mais je ne veux pas le commenter maintenant, dans la Genèse 19, où les anges, voulant sauver Lot et toute sa famille, ils vont venir et vont aveugler, ils vont faire en sorte qu'ils soient aveuglés, les sodomites vont être aveuglés, parce qu'ils se préparent à perpétrer un crime, et tout ça pour protéger Lot et sa famille, et surtout un certain détournement tramé dans les réalités invisibles. Il y a des choses que nous voyons, mais il y a des choses qui nous sont inconnues, des choses qui sont là, au-delà de notre compréhension et au-delà de nos perceptions naturelles, c'est-à-dire nos sens. Et nous voyons que dans les choses sont clairement établies, dans Corinthiens, au chapitre 4, me semble-t-il, et au verset 4, il est dit ceci. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça signifie. Paul dira, parce que c'est Paul qui est le centre de la situation, il dira, mais si notre évangile est encore voilé, voilà, il est voilé pourquoi ? Et pour quelle raison l'évangile est voilé ? Alors, il est voilé pour ceux qui périssent, d'abord les incrédules, parce que la véritable cause de la perdition, c'est l'incrédulité, refuser de croire, naturellement. Alors, ceux qui périssent pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Voilà vitalement eh bien, la réponse, voilà la solution, le mystère qui est levé, c'est que nous ne sommes pas tout seuls, il y a le fait des hommes dans les empêchements, il y a l'effet de la nature déchaînée qui peuvent être une cause d'empêchement. Il peut y avoir Dieu qui va nous, eh bien, par eh bien souci de nous préserver et de nous garder, là aussi. Mais il y a aussi ce mot, le Dieu, avec un petit dé, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ces hommes, de ces incrédules, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile et la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela ? Il y a une signification naturellement. Il y a dans l'empêchement, eh bien comme un voile à un moment donné, Alors, qui vient de, nous avons dit d'où il vient, hein, c'est pas Dieu, c'est pas les hommes, c'est pas la nature, mais il vient de cet esprit ténébreux, de cet esprit de destruction et de mort, de mensonge, parce que ça fonctionne avec le mensonge naturellement, et qui déploie un voile d'aveuglement pour empêcher la découverte du salut. Mais il y a naturellement eh bien, la contrepartie, il y a l'antidote, nous pourrions dire, qui se trouve tout simplement dans Éphésiens, c'est un petit peu plus loin dans notre Bible, et c'est la réponse que Paul donne à cet empêchement maléfique de ce détournement, parce qu'il en faisait un sujet de prière pour ses amis chrétiens. Et il dira ceci, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, dira-t-il, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Voilà, il y a des empêchements qui sont le fait de ce monde invisible, de ces réalités invisibles. Nous ne pouvons pas les discerner, nous ne pouvons pas les voir, nous ne pouvons qu'en subir les effets, les conséquences. Mais il y a une chose, c'est que Paul savait que la prière, s'adressant à Dieu, eh bien, était véritablement une puissance pour détruire les œuvres du diable. Et c'est vrai qu'il y a, on le voit dans le cas de Job, ça c'est flagrant dans le chapitre 1er et le chapitre 2, où là, eh bien, Job, ne sachant pas finalement ce qui se passe derrière le voile de l'invisible, eh bien, nous voyons que finalement il va être là sous la déferlante, eh bien, d'empêchement qui ne vont pas cesser, qui vont durer peut-être des semaines et des mois. L'apôtre Paul, lui, sur son bateau, c'était beaucoup plus court, parce que c'était certainement eh bien, quelques semaines. Mais toujours est-il qu'il y a un travail qui se fait, un travail ténébreux, un travail de méchanceté, un travail de mensonge, qui répand eh bien, là, l'aveuglement pour empêcher la découverte. Mais le remède, il est là. Hein, le remède, il est là, et je pense que nous avons besoin d'en prendre conscience nous-mêmes, que devant des empêchements, eh bien, il faut le prier. Devant des empêchements, qu'on connaisse les causes ou pas, les origines et les conséquences, peu importe. Une chose qui est certaine, c'est qu'il dira, mais je prie pour vous, dira-t-il, hein, afin que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur. C'est pour ça que nous parlions de perspicacité et également, eh bien là, de discernement. Ça, c'est important. Nous arrivons bientôt à la fin. Il y a un autre cas d'empêchement que nous trouvons dans l'affaire de David et Nabal. C'est au chapitre 1 Samuel 25, 26, 39. Et nous voyons que eh bien Dieu permet, vous savez David, c'était un grand homme, un géant de la foi. Et avant de devenir roi, il était persécuté par le roi Saül. Et nous savons que eh bien pendant des années, il a fui avec une petite troupe d'hommes qui étaient ses fidèles, ses compagnons, dans les déserts hein, de la région. Et alors qu'il était dans la profonde détresse, hein, eh bien, il est arrivé chez un homme riche qui s'appelait tout simplement eh bien, Nabal. Et il est venu plaider la cause de ses compagnons dans l'infortune, dans ce désert, perdu dans ce désert, pour qu'il leur donne eh bien, là, de la nourriture, qu'ils puissent entretenir. Et cet homme, Nabal, qui était riche, et qui, lui, s'est mis en colère contre David. Et il a insulté, il a fait toutes sortes de choses, et David, qui était un homme qui ne se laissait pas forcément faire, eh bien, a dit, moi, je vais tuer Nabal. Enfin, c'est pas quand même dans le tempérament de David. Et là, alors qu'il était prêt à réunir sa petite armée pour, eh bien, régler le compte de Nabal, il a été arrêté par un empêchement. Et cet empêchement, eh bien, avait l'image, tout simplement, d'une femme, qui était la femme de Nabal, qui s'appelait Abigaël, qui est venue en disant « David, eh bien ne fais pas ce crime, ne tue pas cet homme, c'est un homme mauvais, c'est un homme méchant, mais ne le tue pas, laisse-le en vie. » Et nous voyons que derrière, en effet, il y a eu cet empêchement qui a été arrêté in extremis par la sagesse, la sagacité de cette femme pour dire « ne fais pas le mal. » Et nous croyons que quelquefois, il y a des empêchements où nous pouvons tomber dans des pièges nous-mêmes et dans un esprit de vengeance, de revanche, toutes sortes de choses, et faire le mal que nous n'avons pas à faire. Parce que s'il y a des choses à régler, c'est pas à nous de les régler, c'est à Dieu de les régler. Hein, sans vouloir la mort de quelqu'un, sans vouloir eh bien son malheur, naturellement. Et là, ça s'est arrêté, un empêchement, que nous voyons dans cette affaire de David et de Nabal, et Dieu peut envoyer finalement quelqu'un à nos côtés, comme Abigaël, pour dire ne le fais pas parce que Voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. Pourtant, il y avait un homme qui a été prévenu, c'était Pilate. Quand il était prêt à prononcer la sentence de mort sur Jésus, sa femme est venue en disant « J'ai eu un songe, j'ai été tourmenté cette nuit, surtout ne fais rien à ce juste que l'on appelle Jésus ». Mais il l'a fait quand même, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc on peut être arrêté pour que, in extremis, eh bien, nous ne fassions pas le mal. La conclusion, des empêchements et des contrariétés, d'abord, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu, sans comprendre et sans révolte. Voilà. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, qui suscitent pour nous, eh bien, tout simplement, eh bien, là, des contrariétés, hein, des toutes sortes de choses vraiment désagréables, à quelque niveau que ce soit d'ailleurs. Hein, ça peut être bénin, mais ça peut être aussi très grave. Donc, c'est d'accepter sans comprendre et sans révolte, de dire, eh bien, Seigneur, si les choses ne sont pas arrivées, si j'ai été arrêté en cours de route, si véritablement, eh bien là, il n'y a pas eu d'aboutissement, les choses sont ainsi et je suis déçu, on peut toujours pleurer notre déception, c'est sûr, en parler au Seigneur, mais sans véritablement que ça prenne des proportions, parce qu'il y a la vie de certaines personnes qui, parce qu'ils ont été arrêtés dans des affaires ou dans des directions sentimentales, affectueuses, ou toutes sortes de choses à travers des pertes, à travers toutes sortes de choses, qui n'ont jamais pu s'en remettre. Et toute leur vie, eh bien, à cause de cet incident d'empêchement qui est arrivé, eh bien, ça n'a pas été favorable. La deuxième chose, c'est que nous devons faire attention à nos revendications de l'ego, de notre ego, de notre égoïsme. Parce qu'à partir du moment où nous avons été empêchés, que nous voulons forcer la porte, que nous voulons dire à Dieu « mais je veux ceci, je veux cela », alors le danger, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous pouvons prier et insister en disant « eh bien là, voilà, voilà, tout simplement ». C'est une mauvaise persévérance, ça. Hein. Et qu'à un moment donné, Dieu, eh bien, tu le veux, tu vas l'avoir. Tout simplement, ça, c'est l'histoire des Hébreux dans le désert avec l'écaille. On en connaît naturellement la fin. Et je pense qu'il faut faire attention à nos revendications, celles de notre personnalité, qui n'est pas finalement, eh bien, parfois toujours, qui n'est pas toujours dans la volonté du Seigneur. Hein. La troisième chose, c'est que nous avons à prendre garde que nos contrariétés ne dégénère en amertume et en critique acide contre Dieu et contre les autres. Eh oui, c'est ça. Alors contre Dieu, je pense que le Seigneur est humilisé contre toute la colère et toute la fureur des hommes. Ça, il n'y a pas de problème parce que lui, il est saint et que nous, c'est pas tout à fait la même chose. Mais toujours est-il que ça se retourne contre nous lorsque nous entretenons l'amertume et la critique. Et aussi, quelquefois, le faire payer à des innocents. Voilà, hein, les autres. Et un autre point, c'est de savoir plier notre volonté à celle de Dieu et de le bénir. Ça, c'est pas forcément. Hein, il y a des expériences qui ont été faites d'une manière ou d'une autre, des choses qui ont été attendues, des choses qui ont été prévues, des choses qui ont été mises en place pour le jour J et que finalement, ça n'arrive pas. Hein, on pourrait dire ça capotait tout simplement parce qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Alors, attention, c'est que quelque part, il ne faut pas se refermer dans le négatif, mais de dire, Seigneur, écoute, si la chose a été permise, si tu as permis que ça soit, c'est que toi, tu as tes raisons. Moi, je ne les connais pas, mais je te fais confiance, tout simplement. De le bénir de ce qu'il donne, ou, son contraire, de ce qu'il ne donne pas, et en sachant qu'il est toujours au pilotage de notre vie, et ça sera toujours pour notre bien suprême. Je finis. Sachons saisir l'incident d'un empêchement. On peut considérer que ça peut être un accident, des choses qui arrivent comme ça, pour réfléchir à l'enseignement qu'il nous laisse en positif. Voilà, on peut être déçu, on peut être navré, on peut être là, eh bien, vraiment dans un état qui nous rend malade, qui nous fait du mal, tout simplement. Mais il y a derrière tout cela, eh bien, une intention. C'est pour réfléchir à l'enseignement que Dieu veut nous laisser, Dieu veut nous apprendre, nous sommes à l'école, mais d'une manière positive, de changer naturellement la nature des choses et découvrir les intentions providentielles de Dieu. C'est ce que nous avons dit dans le défilé un peu des exemples que nous avons pris. Et l'empêchement, les empêchements, si nous les mettons au pluriel, doivent et peuvent nous offrir non pas un puits dans lequel nous tombons, qui va se refermer sur nous, non pas en effet eh bien là quelque chose qui nous fait descendre vers le bas, mais un tremplin. je dis bien un tremplin pour aller plus loin, et ainsi de chercher dans l'opportunité des circonstances imprévues, des empêchements qui surviennent, selon cette parole que nous connaissons tous, et qui est certainement une des plus belles paroles du Nouveau Testament, de pouvoir saisir l'opportunité, et bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son salut, selon ses desseins, selon ses plans. Toute chose concourt au bien, c'est pas au mal, mais au bien. Et moi maintenant, je ne veux pas en effet m'offusquer, je ne veux pas me désespérer, je ne veux pas abandonner, dire que Dieu n'existe pas. Quelquefois, il y en a qui ont abandonné la course à cause de ça, mais de dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie, je l'ai consacrée, maintenant tu fais de ma vie comme tu veux, mais je sais que quoi qu'il en soit, ça sera toujours le meilleur que ce que toi tu choisis, même s'il y a des empêchements, même s'il y a des contrariétés, peu importe, tu me donneras d'aller plus loin et de voir peut-être des choses que je n'aurais pas vues sans cet incident, sans cet accident ou sans cet empêchement. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Puis je vous invite à nous rejoindre tout à nouveau sur tout simplement Bible Espoir, où nous aurons encore autant en vidéo qu'en audio et même en page imprimée dans tout simplement l'écriture en majuscule. Nous avons là toute une planification de différents messages et que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci à tous de votre écoute, de votre attention. Mmh.